position. Sachant qu'à ma gauche, Daniel m'a supplié. Non, pardon. Ne m'a pas laissé le choix en disant c'est toi qui lis mon texte. Bon, bah, d'accord. Après tout, je fais une heure de route. Faut bien que je bosse un peu. D'accord. Très bien. Aller-retour, ça fait deux. Donc, plus sérieusement, c'est un atelier d'écriture qui a eu lieu ici sur la commune de Lambesc, donc dans la médiathèque, avec. Excusez-moi, sur un déroulé de théoriquement 6 séances, en fait, il y en a 8. Puisqu'on avait beaucoup de plaisir à être ensemble, donc on en a rajouté 2 tout bêtement. De manière à pouvoir à la fois travailler sur des éléments techniques liés à l'écriture et pour tendre vers une production de texte. Alors, ce qui est important dans ces moments-là, dans les ateliers d'écriture, c'est que dans un sens, il peut y avoir des écrivains qui sommeillent en chacun de nous. Encore que ça, c'est très, très oui, discutable, parce qu'il faut aussi, avoir des choses à dire et ce genre de joyeuseté. Mais il se trouve que les gens qui sont venus à l'atelier d'écriture ont du talent, ont des choses à dire et ont fait des productions intéressantes. Donc on met à la fois l'accent sur des éléments techniques de l'écriture et sur la capacité de chacun à écrire. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à me mettre très très dogmatique sur l'écriture, même si on travaille beaucoup sur la technique, pour laisser quand même chacun s'exprimer et sortir le meilleur de soi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, on va vous donner lecture de plusieurs textes, pour certains en expliquant les consignes, parce qu'il y a des choses assez amusantes. Et puis pour le reste, on aura à la fin deux textes un petit peu plus longs pour vous montrer ce que ça donne au bout de l'atelier d'écriture, à la fin des travaux, ce à quoi on peut aboutir. Alors là, je vais commencer par un truc. Alors, il faut savoir que dans tout atelier d'écriture qui se respecte, on fait des exercices de mise en jambe, des exercices un peu amusants pour essayer de libérer l'imagination. On joue sur des homophonies approximatives, sur des trucs rimés, enfin ça. C'est Daniel qui avait retenu un exercice sur ornithorynque. Un acrostiche sur ornithorynque, c'est-à-dire qu'on prend chaque première lettre du mot ornithorynque et on écrit une phrase, et puis j'avais demandé même une poésie, moi, carrément, avec des rimes. Voilà, donc il y a tout un tas d'exercices. Alors je vais vous donner lecture d'un des textes de Daniel pour vous montrer un petit exercice qu'on a fait sur site en une demi-heure, une heure, pour montrer le genre de petites choses auxquelles on peut aboutir avant de voir des choses plus développées. L'idée, bon alors ça c'est un des trucs bateaux des ateliers d'écriture, quand j'ai bien échauffé mes troupes, de leur demander de tirer au sort dans une enveloppe des mots, de préférence bien incompatibles les uns avec les autres. Donc là, coup de bol, parce qu'après, bon, je tiens à préciser que comme j'avais le dos tourné sans échanger des mots, évidemment, donc bon, ils m'ont mis mon travail par terre. Hein. Donc là, il y a eu église, ange, cheval, cimetière, poupée sanglante. Carrément. Et l'autre consigne était d'écrire ça comme un rapport de police. Donc avec un côté un peu neutre, un peu froid, pour prendre une espèce de distance avec le texte. Ce que ça a donné pour Daniel, c'est... Alors ça, c'est un texte très très court. Le 6 septembre 1866, à 18h30, derrière l'église d'Espalion, dans un grand cercle de feu, un ange aux ailes déployées a été observé par 4 personnes, Madame B, Madame D, qui n'est pas là aujourd'hui, je crois, Madame M et Monsieur A. Saisis d'une grande peur, ils ont senti leur corps devenir de pierre, statufié, incapable de bouger. Les pieds soudés au sol, ils ont entendu à leur dire les galops de centaines de chevaux, tant le bruit était fracassant. Effarés, ils n'ont vu apparaître qu'un cheval, immense et noir comme l'enfer, échevelé dans le couchant. Il a piaffé. Au premier coup de sabot, la vieille porte du cimetière s'est ouverte. L'air était irrespirable, aussi chaud que s'il sortait d'un four. Un doux gémissement se fit alors entendre. L'ange s'avançait, battant des ailes. L'air se rafraîchissait sur son passage. Le gémissement se transforma en pleurs. Terrifiés, les témoins ont vu apparaître une poupée sanglante chancelant sur ses petites jambes, un enfant. Ils l'ont reconnu. C'était le petit M que l'on avait retrouvé égorgé derrière le lavoir d'Espalion et enterré le premier de ce mois. L'ange a marché vers lui, l'a recouvert de ses ailes, et pris contre lui, le cheval s'est agenouillé. L'ange l'a chevauché. Le cheval, en hennissant, s'est redressé, secouant sa crinière. Une poussière cendreuse s'est élevée du sol, qu'il a martelé en une sorte de danse, et soudain plus rien, ni ange, ni cheval, ni enfant. Tous trois avaient disparu. Depuis, la tombe du petit M est ouverte et vide. Les témoins sont saints de corps et d'esprit. Respectables, ils sortaient d'une messe. Leur sobriété ne fait aucun doute. Le lendemain, le 7 septembre, à Espalion, on a découvert le corps sans vie du cordonnier Martin dans sa chambre, le crâne fracassé, le torse marqué d'empreintes de sabots. Sur le sol auprès de lui, il y avait la chemise du petit M et une haleine, toutes deux tachées de sang. Une rumeur s'est répandue dans le village. Le ciel a désigné le meurtrier, il a fait justice en reprenant ce qui lui appartenait, un petit ange. Vous voyez, c'est ce genre de choses auxquelles on peut aboutir. Bon, j'ai oublié de préciser que la contrainte de base, c'est d'écrire des textes fantastiques. Donc forcément, on va être dans le fantastique. C'est bon ? Autre chose maintenant, là vous notez que normalement c'est pas moi de parler tout le temps. Parce que... Mais bon, j'épaule Daniel. Alors, on a fait un autre exercice qui était assez amusant. Il m'arrive assez souvent de faire avec les groupes des exercices à l'aveugle, c'est-à-dire que je donne des consignes, mais je n'explique pas toujours ce que je veux obtenir. Ce qui me permet, moi, de conserver... Je leur dis certaines choses que je veux obtenir, bien évidemment, mais je leur dis pas tout. Et ça permet d'obtenir toujours un effet à la fois de surprise pour eux et... Pardon ? Voilà, c'est ça. À la fois un effet de surprise et un effet de mise en imagination qui est toujours intéressant. Alors là, on a fait un exercice à trois consignes successives, et je ne dévoilais la consigne suivante que lorsque la première partie était finie. L'idée était pour leur montrer comment créer des séquences d'action, comment faire pour mettre en relief toutes les parties liées à l'action. C'est la technique de la pause narrative, c'est la technique du dégraissage, on enlève les adjectifs, les adverbes, on enlève plein de trucs, on met de l'émotionnel. Et pour mettre de l'émotionnel, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Ben, c'est de mettre du neutre. Vous allez voir, c'est un truc très simple. Pour mettre en exergue les parties où il y a de l'émotion, on met une partie où il n'y en a pas du tout. Et du coup, les parties d'émotion ressortent, sont bonifiées par la pause narrative où il n'y a pas d'émotion. Donc là, j'avais demandé comme consigne, là, ils ont ouvert des yeux comme des boules de billard en disant « Mais qu'est-ce qu'il nous veut encore ?» Je leur ai dit « Vous allez nous écrire, me décrire très précisément une scène extrêmement banale de votre vie dans toute sa banalité la plus navrante, à savoir, quand vous démarrez votre voiture ou votre vélo, enfin, on ne démarre pas un vélo, bien évidemment, mais quand vous démarrez, style pour aller au bureau, quand vous démarrez votre moyen de transport, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. On va commencer par Sandrine, comme ça je me repose un peu.
Alors, d'abord la première partie où je prends mon vélo. Donc, la partie la plus basique, on va dire. D'abord, hésitante, je décide de prendre les clés du garage. Je longe le couloir qui mène à l'extérieur par le jardin. J'ouvre la lourde porte en fer qui coulisse silencieusement au-dessus de la voiture. Les vélos sont toujours à la même place. Deux. Je dois choisir le mien. Il y a un M sur la calandre. L'autre appartient à ma petite sœur qui dort à poing fermé au deuxième étage. Je le sors en faisant attention à ne pas rayer la voiture. L'espace est étroit. J'enfourche enfin ma bicyclette toute cabossée et prends mon élan.
Voilà, donc je vais lire celui de Daniel. Je dois... Mais il n'y avait pas ça. Je prends mes clés de voiture. Oui, elles sont là dans une coupe. Je les prends et descends au sous-sol. J'actionne l'ouverture du garage, m'assieds au volant de la voiture. Je démarre, le moteur tourne, je roule doucement. La porte du garage se referme, le volant s'arrondit sous mes mains, j'accélère. Banal, rien à dire. Bon, deuxième exercice. Donc je leur dis toujours pas ce que je veux, je leur dis « Maintenant, vous allez m'écrire un autre texte dans lequel vous allez m'écrire de manière très courte une fuite. Vous fuyez, et la consigne c'était « Vous fuyez, vous avez peur, vous êtes poursuivi, c'est haletant, on sait pas trop qui, à vous de décider si vous savez, on sait pas trop où, on sait pas trop pourquoi, ce que je veux c'est une fuite. »
Derrière moi, un mouvement se rapproche. Un sifflement se fait entendre plus fort. J'accélère le pas. Je sens une présence froide. Un souffle dans ma nuque, mon cœur palpite. Sur mon épaule, un frôlement comme une araignée qui cherche à paralyser sa proie. Il fait chaud. Pourtant, ma peau est glacée en surface. Il me touche, s'éloigne, forme un halo autour de moi. Je suis observée, épiée. Une seconde de répit, d'inattention, j'en profite pour m'échapper. Je cours sans me retourner, plus vite, je bifurque avec la dextérité d'un impala. Il n'a pas suivi. Je me jette sur la porte d'entrée et me cache. Mon corps a repris peu à peu une température normale.
Et celui de Daniel, qui nous donne. Je fuis en courant dans cette rue que je connais par cœur. La nuit est d'un noir d'encre. Je m'essouffle, je trébuche, l'homme court derrière moi, m'insulte. La lumière au coin de la ruelle va me sauver. Je glisse et m'érafle le coude contre un angle. Je sens la douleur du sang, la douceur du sang qui s'écoule. Je jette mon sac sur le sol, il aura ce qu'il veut. Je n'entends plus le bruit de sa course derrière moi. Mes clés sont dans ma main. Ma porte est là, je l'ouvre et la referme aussitôt, j'ai réussi. Troisième consigne, qui leur a été révélée par la suite. Ben maintenant, vous allez réunir les deux textes. Et quand vous avez réuni les deux textes, la fuite, vous montez dans votre voiture, tu prends ton vélo, ben vous allez m'écrire la suite du texte pour me dire où vous allez, pour quelle raison vous y allez. Donc Sandrine va donc vous lire ça et vous allez voir que le côté élément banal, eh ben, ça bonifie la fuite. Enfin, ça bonifie tout le reste en fait. Ah non, il y a total.
Derrière moi, un mouvement se rapproche. Un sifflement se fait entendre, plus fort. J'accélère le pas, je sens une présence froide, un souffle dans ma nuque, mon cœur palpite. Sur mon épaule, un frôlement comme une araignée qui cherche à paralyser sa proie. Il fait chaud, pourtant ma peau est glacée en surface. Il me touche, s'éloigne, formant un halo autour de moi. Je suis observée, épiée, une seconde de répit d'inattention, j'en profite pour m'échapper. Je cours sans me retourner. Plus vite, je bifurque avec la dextérité d'un impala. Il n'a pas suivi. Je me jette sur la porte d'entrée et me cache. Mon corps a repris, peu à peu, une température normale. D'abord hésitante, je décide de prendre les clés du garage. Je longe le couloir qui mène à l'extérieur par le jardin. J'ouvre la lourde porte en fer qui coulisse silencieusement au-dessus de la voiture. Les vélos sont toujours à la même place, deux. Je dois choisir le mien. Il y a un M sur la calandre. L'autre appartient à ma petite sœur qui dort à point fermé au deuxième étage. Je le sors en faisant attention à ne pas rayer la voiture. L'espace est étroit. J'enfourche enfin ma bicyclette toute cabossée et prends mon élan. Parfois, je n'ai pas besoin de pédaler et je me laisse glisser. Je me retourne. La ville est endormie. Quelques lumières vacillent encore dans le lointain, puis disparaissent derrière la montagne quand j'arrive dans la forêt immortelle. Il y a plusieurs milliers d'années, la foudre a pétrifié les arbres. Aucun n'a survécu, sauf un. Chaque année, un miracle se produit. Il se couvre de feuilles. La légende dit que l'arbre détient un pouvoir magique. Il peut porter bonheur ou malheur à ceux qui l'approchent. L'âme doit être pure. Je mets un pied à terre, pose mon vélo. J'enlève mes chaussures qui me font mal. L'herbe est douce et fraîche. Elle soulage mes ampoules. Je me dirige vers l'arbre, tête basse, les mains vers le haut en calice, signe de soumission et de respect. Les vents se lèvent subitement, tourbillonnent autour de moi. Je tombe à genoux. Des visions colorées m'éblouissent. Des hurlements stridents semblent vouloir pénétrer ma tête qui devient lourde. Je lutte, mais suis plongée malgré moi dans un sommeil profond.
Et maintenant, je vais lire celui de Daniel. C'est dommage qu'on n'ait pas sa voix, mais bon. Je fuis en courant dans cette rue que je connais par cœur. La nuit est d'un noir d'encre. Je m'essouffle, je trébuche. L'homme court derrière moi, m'insulte. La lumière au coin de la ruelle va me sauver. Je glisse et m'érafle le coude contre un angle. Je sens la douceur du sang qui s'écoule. Je jette mon sac sur le sol. Il aura ce qu'il veut. Je n'entends plus le bruit de sa course derrière moi. Mes clés sont dans ma main. Ma porte est là. Je l'ouvre et la referme aussitôt. J'ai réussi. Je dois agir vite. Mes clés de voiture, oui, elles sont là, dans une coupe. Je les prends et descends en sous-sol. J'actionne l'ouverture du garage. M'assieds au volant de la voiture. Je démarre. Le moteur tourne. Je roule doucement. La porte du garage se referme. Le volant s'arrondit sous mes mains. J'accélère. Le jour se lèvera dans une heure. Le parcours vers la maison de campagne à quelques kilomètres d'Aix se fait à vive allure. Dans mon sac jeté à cet homme, il y avait la clé de cette maison dont l'adresse est gravée sur le vieil anneau d'argent qui l'entoure. Un peu de monnaie, pas de carte de crédit, mais des relevés bancaires au montant si élevé qu'ils sont capables de faire tourner la tête à un voleur. Un chemin pour qu'il me retrouve en quelque sorte. Au bout de l'allée, dans la lumière des phares émerge le corps trapu du mas accolé à une tour étrange, semblable à une chouette endormie. Je souris. Cette tour est mon souvenir le plus ancien. C'est là que j'ai rencontré mes initiateurs il y a si longtemps. Ce fut douloureux, mais si jouissif par la suite. La voiture, en ralentissant sur le gravier de la cour, le fait crisser. C'est presque un grincement de dents. Enfin, je vais pouvoir dormir. Je soupire d'aise en ouvrant la porte aux arabesques de fer. Elle est aussi légère qu'un voile que l'on creuse d'un souffle. Elle se referme seule. Le chant du tour de clé se fait entendre derrière moi. Je gravis l'escalier jusqu'à l'étage où se trouve la chambre. Elle est toute tendue de velours noir, les rayons du soleil, les sons jamais n'y pénètrent. Aucun cri ne peut s'en échapper. Là, je me dénude, mes vêtements tombent un à un sur le sol, je défais ma chevelure rousse, elle crépite en se déployant. Je m'étire, oui, je suis toujours aussi belle. J'ai besoin de repos, je m'allonge sur le lit, un goût de framboise est dans ma bouche, mes incisives se souviennent, j'ai faim. Bientôt, je découplerai ma force, il viendra ce voleur et son jeune cou, je prendrai en le mordant. Peut-être seront-ils deux ? Cerises, fraises, mûres, ah, tous ces fruits rouges. Je m'endors en rêvant de sang. Je dors peut-être plusieurs jours et m'éveille au changement de température. Une douce chaleur indique l'approche d'une présence humaine. Mon oreille affinée, décuplée par l'ardeur de ma faim, devine les pas dans l'escalier, le frôlement dans le couloir, la porte entrouverte. Dans l'air entrant en spirale dans la chambre, mélange de sueur, inquiétude, fébrilité, un homme et aussi mêlé, un parfum poivré sensuel, une femme. Ainsi, ils sont deux, merveille. Déjà, je fonds de désir. J'écarte les jambes. Une torche découvre mon cœur nu sur lui. Oui, c'était barré. Dans un cri, il se jette sur moi. Je l'entoure de mes bras. La torche roule sur le sol. Il ne pense d'abord qu'à me pénétrer, rapide dans ce combat. Et lorsqu'il abandonne son front sur moi, je le mords sous la nuque et aspire sa vie en quelques secondes. Il n'a pas eu le temps de se débattre. Une main a ramassé la torche et tente d'éclairer le lit. Avec la rapidité d'un félin, je bondis sur la femme, l'emprisonnant dans mes bras. Sentant contre moi ce petit corps, cette jeune poitrine, devinant sa beauté, mon corps épouse le sien, je suis éperdument conquise. Ah, ma belle, depuis que j'attendais que l'on m'accompagne dans ma solitude, te voilà. Viens, je vais te donner l'éternité. Ferme les yeux, un peu de mal pourtant de bien. Je l'entraîne presque évanouie, paralysée d'effroi sur le lit, et là, à demi agenouillée, je mords mon propre poignet et lui fais avaler quelques gouttes de mon sang maudit. Ma chevelure rouge forme une cage autour de nos deux visages. L'un fascinant l'autre, l'autre l'adorant, déjà, ils ne font qu'un dans un baiser. Ainsi je pénètre en elle et la possède jusqu'au fond de son âme, dans une longue plaine glaciale, cliquetis de fer, heurtement de bois, une porte s'ouvre dans les entrailles de la maison, je le sais, la chose s'est réveillée. Voilà. Bravo. Là, maintenant, on va vous donner lecture de deux compositions donc, qui ont été faites de manière plus libre au cours et au terme de cet atelier d'écriture. Donc, on va commencer par Caroline et ensuite, ce sera Claude. Alors, il y a déjà un texte un peu, petit peu plus long et Claude, c'est encore plus long. Voilà. Donc là, vous prévoyez les sandwichs et les bières. Non, mais c'est très bien.
D'accord, merci. Miss Englewood, la voix qui m'interpellait était lointaine mais tout à fait audible. La journée avait été longue et je n'avais aucune envie de la prolonger. Miss Englewood, attendez, voyons, j'ai encore quelques questions à vous poser. Je ne pouvais plus user de mes dons pour disparaître. Deux alternatives, courir le plus vite possible dans l'espoir de n'être jamais rattrapée ou me plier à l'interrogatoire du détective Horney. Je me résignais à la seconde option. Courir aurait paru déplacé, voire suspect. Le mieux était de collaborer du mieux possible. Avec un peu de chance, cela ne durerait pas très longtemps. Après tout, j'avais déjà dit l'essentiel. Je m'arrêtai donc et attendis que le détective Horney me rejoigne. C'était un homme d'une sensualité prometteuse. En d'autres circonstances, je l'aurais volontiers abordé à des fins beaucoup plus personnelles. Il faisait dans les 1m85, les cheveux bruns, le visage anguleux, les yeux gris. Un visage ténébreux et un corps tout en muscles, apparemment. Malgré ce physique massif, il se déplaçait avec grâce et fluidité. Je m'imaginais aisément dans les bras d'un homme comme lui. Je n'eus pas le temps de divaguer plus. « Miss Englewood, veuillez m'excuser, mais quelque chose me tracasse. »« Oui, Mr. Horney ?»« Eh bien, voilà, vous avez dit avoir trouvé le corps du professeur Moebius vers 18h. »« Oui. » Le corps était déjà froid et pourtant ses élèves affirment qu'il a assuré le cours de 16h. « Mr. Horney, je vous serai extrêmement reconnaissante de bien vouloir en venir au fait. »« Voyez-vous, la journée a été longue et particulièrement difficile. »« Oh oui, veuillez m'excuser, Miss Englewood. » Comment le corps du professeur Moebius pouvait-il être aussi froid alors qu'il n'était mort que depuis une heure tout au plus? Oh, probablement parce qu'il était à même le sol, du carrelage. De plus, vous avez pu constater par vous-même que le laboratoire est particulièrement mal isolé. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous sommes en décembre. Oui, cela peut être une explication, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Eh bien, je n'en ai pas d'autre. Le mieux est d'attendre le rapport du légiste. Qu'en pensez-vous, Mr. Horney? Pauvre homme, je ne me voyais pas lui expliquer la véritable raison de cette froideur. Il y a des choses que le commun des mortels n'est pas prêt à entendre. Si seulement j'avais pu la rassurer en lui disant que le professeur n'était pas mort aux yeux de certains d'entre nous. Mais bien sûr, il aurait douté de mon intégrité mentale. Je choisissais donc le silence et mon corps se mit à traduire mon impatience. J'avais un alibi en béton et ce n'est pas moi qui devais mener l'enquête. Alors à moins que le détective Orny ne veuille me raccompagner chez moi et profiter de mes courbes généreuses pour le réchauffer, il faudrait qu'il se passe de ma coopération, du moins pour le reste de la journée. Mr. Orny, avez-vous d'autres questions ? Non, Miss Englewood, du moins pas pour le moment. Manifestement, le détective et moi n'étions pas sur la même longueur d'onde. Soit, je rentrerai seule. Très bien, dans ce cas, me permettez-vous de rejoindre mes appartements ? Je ne voudrais pas être le deuxième corps gelé de cette journée. Quoique cela ne m'aurait pas dérangé outre mesure s'il était capable de réchauffer aussi bien que je l'imaginais, non que j'eus réellement besoin de faire remonter la température de mon corps. Été comme hiver, peu m'importait les variations de température, je ne les sentais pas de toute façon. Oui, bien sûr, Miss Englewood, veuillez me pardonner. Je vais demander au Gardenton de vous raccompagner, ne sait-on jamais. Il ôta son chapeau et s'inclina. J'esquissai une génuflexion et repris mon chemin sans même attendre le jeune garde. Je n'étais qu'à deux rues de chez moi et je n'avais pas grand-chose à craindre, contrairement à ce que semblait penser le détective Orny. Le Gardenton me rattrapait au moment même où la clé pénétrait dans la serrure. Je le remerciai et refermai la porte derrière moi sans même attendre la moindre réponse de sa part. Avant de pouvoir profiter du reste de la soirée, je savais que j'allais devoir me plier à un rapport explicite sur la mort du professeur. En attendant l'arrivée de Margaret Followay, je faisais bouillir de l'eau et préparer une tasse de thé. Avec tous ces événements, je n'avais pas eu le temps de boire celui de 16h30. Ces goujats de suceurs ne respectaient même plus le rituel du thé. Margaret arriva plus vite que je ne le pensais. La nouvelle n'avait pas tardé à parvenir au bureau. « Margaret, bonsoir. Allez-vous bien, très chère ?»« Oh, fort mal, bien sûr. Est-il besoin de poser la question en de telles circonstances ?»« Ne soyez pas si pessimiste, Margaret. »« Pessimiste ? Mon Dieu, Gabrielle, êtes-vous sérieuse ? Comment allons-nous faire à présent pour expliquer la mort du professeur Moebius ?»« Oh, je pense que le légiste s'en chargera pour nous, lui répondis-je avec un clin d'œil. »« Gabrielle, je vous en prie, la situation est grave. » Miss Margaret Followay avait un physique sec et un grain en parfaite harmonie avec sa façon de penser. Les cheveux noirs étirés en chignons serrés dégageaient un visage disgracieux. Un nez d'une longueur indécente était placé entre de tout petits yeux perçants et noirs comme le charbon. Ses lèvres minces et serrées ne formaient qu'une ligne écarlate lorsqu'elle était stressée. Autant dire qu'en ce moment même, la ligne était carmin et d'une finesse que je n'avais connue qu'en une seule autre occasion. Son corps, long et maigre, n'offrait aucune courbe mais plutôt des angles fort peu avenants. Margaret était le médiateur du bureau et prenait son rôle un peu trop à cœur. La moindre petite chose prenait vite des proportions catastrophiques avec elle. La mort du professeur Moebius était certes gênante, mais je savais d'avance qu'elle pourrait vite passer pour anodine. « S'il vous plaît, Margaret, asseyez-vous donc et prenez un petit peu de thé. Cela vous fera le plus grand bien. » Je l'invitai à venir s'asseoir dans le sofa pourpre du petit salon. Étonnamment, elle ne posa aucune résistance et y prit place. Avec une certaine élégance, je plaçai une tasse de thé fumante entre ses mains et profitai de ce détournement d'attention pour prendre la parole. « Margaret, chère Margaret, ne soyez pas si inquiète, je peux vous assurer que l'analyse du corps du professeur Moebius ne pourra pas nous mettre dans l'embarras. Notre ami le docteur Foreigner a été dépêché pour pratiquer l'autopsie et... Oh, Dieu soit loué, nous sommes sauvés, une chance que le docteur Foreigner soit des nôtres. Grâce à lui, nous allons éviter bien des soucis. Vous voyez, Margaret, il ne sert à rien de s'inquiéter. Vous pouvez repartir tranquille. Dites au bureau que je passerai demain pour faire état des circonstances qui ont mené à la mort du professeur Moebius. Même si les deux traces au poignet ne laissent pour nous aucun doute sur la nature du meurtrier, je parlais de la voix la plus douce et la plus calme possible, afin d'endormir la conscience de Margaret. Les spectres étaient plutôt dociles et répondaient bien à ce genre de manipulation. Les lèvres de Margaret se décrispèrent, elle buissonnait lentement. Je pouvais presque voir un léger sourire se dessiner sur son visage. Elle ferma légèrement les yeux, inclina brièvement sa tête. Margaret était à présent totalement confiante et je m'en réjouissais. J'allais pouvoir profiter pleinement de la soirée sans avoir à me plier à des explications sans fin. Je devais avouer que j'étais moi-même soulagée que ce soit Dorian qui fasse l'autopsie. Outre le fait que ce fut l'un des plus solides amants que j'eusse pu avoir, ce qui n'avait rien à voir avec notre préoccupation du moment, je devais bien admettre que son appartenance à notre bureau était un avantage considérable. Il allait à n'en pas douter trouver une explication tout à fait plausible au décès du professeur et ainsi nous permettre de garder encore secret l'existence des autres. La seule chose qui me tracassait vraiment était que je n'avais pas eu le temps de faire disparaître le corps avant qu'il ne soit découvert. Les suceurs prenaient des risques à agir de la sorte et ce faisant, nous risquions tous d'en partir. Ayant fini sa tasse de thé, Margaret se leva et remit sa capeline. Gabriel, nous attendons votre rapport dès demain. Ce n'est qu'une formalité à présent que nous savons que le docteur Foreigner se charge de l'autopsie. Et je pense qu'il serait utile que nous établissions une ligne de conduite suite à ces débordements. Très bien, Margaret, je serai au bureau à l'aube. Je vous souhaite une bonne soirée, très chère. Je raccompagnais Miss Fallaway et, aspirant à un instant de solitude, je rejoignis le sofa et m'y installai confortablement. Je ne sentis pas le sommeil me gagner. Je me réveillais pourtant à l'aube, une nuit sans rêve qui m'avait permis un repos total. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine. Ce matin, je prendrai un solide petit déjeuner et la journée promettait d'être assez longue. Je ne fus pas déçue. Le professeur Moebius, du moins son spectre, attendait, serein, dans un coin de la pièce. « Professeur, » fis-je en inclinant légèrement la tête, « je ne vous attendais pas si tôt. » Le petit bonhomme ouvrait et fermait successivement la bouche. Cela lui donnait l'air stupide d'un poisson échoué hors de son bocal. Je refoulai mon envie de rire. Décidément, je ne ferai jamais à cette vision. « Oh, n'essayez pas de me parler, c'est tout à fait inutile, du moins pour le moment. Il faut d'abord accepter votre nouvel état. Ensuite seulement, vous pourrez peut-être communiquer avec ceux qui peuvent vous voir. Surtout, ne retenez qu'une seule chose. » N'essayez pas de vous manifester auprès des simples mortels, il en va de leur santé mentale. Vous m'accompagnerez au bureau. Là, vous serez pris en charge et on vous exposera les possibilités qui s'offrent à vous. Et un dernier point. Vu que vous êtes mort de façon anormale, je serai votre passeur, si vous choisissiez de ne pas rester parmi nous, bien sûr. Le professeur paraissait stoïque, à moins que son esprit, purement cartésien, ne soit encore sous le choc de ce qu'il ne pouvait réfuter. Il existe un monde différent, celui des autres.
Je parle alors visiblement. Je parle de quoi ? Alors, nous passons la parole à Claude, qui va nous lire son texte. Donc, la concentration, je vous préviens tout de suite. Texte. Mais non, ils sont taquins entre eux. J'ai passé plusieurs séances à essayer de les baïonner pour pas qu'ils se moquent les uns des autres. C'est l'horreur dans ce groupe. On va prévoir de l'eau. Que l'idée, c'est aussi de laisser les personnes s'exprimer et faire les textes comme ils le souhaitent. Donc, voilà. Hop, on me taquine moi aussi, pendant que je cause avec le micro, c'est bien. Voilà, donc, texte assez intéressant de Claude.
S'intitule « À l'ombre du grand fromager ».
À l'ombre du grand fromager. En feuilletant l'album de famille, la photo d'un homme étrangement vêtu retint mon attention. J'en avais déjà entendu parler. La plupart refusaient de dire qui il était. J'étais soi-disant trop jeune pour entendre son histoire. 12 ans. Je n'étais plus une gamine. Ça m'intriguait. Qu'avait-il à faire avec nous ? Pourquoi figurait-il dans cet album ? Certains parlaient de lui comme d'un assassin, d'autres la victime d'une machination. À quel propos ? Mystère. Quoi qu'il en soit, tout ce que je sais, c'est qu'il était originaire des Antilles, une grande figure vaudou. Quelques pages plus loin, une autre photo le laissait paraître le torse à demi nu, le corps élancé, la peau bariolée de bandes blanches dessinant un squelette. Le bas de son visage était auréolé d'une barbe roussâtre en broussailles, tranchant du reste. À la taille, une ceinture incrustée de coquillages nacrés supportait tout un ossuaire hétéroclite, vestige sans doute de trophées personnels. Pendait à son flanc gauche une machette de coupeur de canne, au dire de certains, coupeur de tête. Il paradait, dansait, sautillant au-dessus du feu d'un épais tapis de braise. Il tenait d'une main un coq ensanglanté, de l'autre, un crâne fendu aux orbites saillantes. Sous la photo, comme légende, était inscrit Aristide. À son sujet, je ne savais guère plus. Félicité, ma nounou, était peu prodigue de confidences. Elle semblait pourtant en savoir long sur lui, bien qu'il fût mort il y a déjà plus de 10 ans. Peut-être un lien plus fort existait-il entre eux ou n'était-ce que le fruit de mon imagination. À mon grand regret, sa discrétion restait de mise, autant s'adresser à un mur. Toujours est-il qu'à cette époque-là, notre famille était en Haïti. J'y suis d'ailleurs né, à la grande satisfaction de mon père et de ma mère, qui, après 10 ans de mariage, n'avaient toujours pas eu d'enfant. Ma tête explose. Les tambours crèvent la nuit. Des étincelles de feu claquent et scintillent dans le noir. L'air se contracte, se gonfle de bruits sourds, de lamentations, de cris et de sons stridents. La transe gagne les corps. Hommes et femmes, aux gestes saccadés, désarticulés, s'agitent au rythme des batteurs, de leurs doigts et mains sur leurs percussions. Des visages, aux yeux exorbités, à la bouche écumante, pourfendent l'espace, m'emportent dans une sarabande vertigineuse. Les têtes tournoient autour de moi. Les corps, les bras s'allongent, s'étirent, me frôlent, m'enlacent, m'assaillent, m'emprisonnent, m'étouffent, m'anéantissent, me traversent, m'absorbent tout entière. Je ne suis plus, mon corps n'est plus. L'esprit, toujours là. Une silhouette, une forme, une ombre, je ne saurais dire, s'impose à moi. Une voix cotonneuse, presque inaudible, m'interpelle. « Viens, petite sœur, viens, n'aie pas peur, viens embrasser ton frère. » Je crie, me réveille en sursaut, tremble de tout mon corps, me recroqueville, les mains crispées sur les draps. Je pleure, octant bruyamment. D'une voix hésitante, tremblotante, j'appelle Félicité. Elle s'engouffre dans ma chambre, se précipite au bord du lit, tend ses bras. Je m'y blottis. Elle caresse mes joues, mon visage, ma tête, murmure des mots censés m'apaiser. Un temps plus tard, je lui raconte mon cauchemar. Elle me réconforte, me berce légèrement contre sa poitrine, entonne même une douce mélodie. Au moment de cette phrase prononcée, « Viens, petite sœur !» Elle se raidit. Son visage se fige, sa voix s'enraye. Elle balbutie des paroles dépassant l'entendement, suivies de gestes distordus, entrecoupés de rapides signes de croix. Elle m'effraie. Je ne sais où me réfugier. Je reste quoi ? Les lèvres sèches. Le souffle court, je crie « Félicité ! Félicité !» Elle se calme. Moi aussi. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu veux, Félicité ? Rien, ma petite. Des souvenirs. Rien que des souvenirs. De mauvais souvenirs. Tu ne peux pas comprendre. Plus tard, peut-être. Les jours suivants, pas d'autre cauchemar. Je sentais bien que ma nounou n'était pas tranquille. De mon côté, j'étais obsédé par ces paroles venues d'ailleurs. Un trouble s'installait, une drôle de sensation, comme si depuis ma plus tendre enfance, une présence auprès de moi, au plus intime de moi, me manquait. J'essayais de me remémorer le visage de cette apparition. Bizarrement, je le voyais de peau couleur créole, les cheveux légèrement roux, un peu comme les miens. Cette idée fixe me taraudait. À toutes mes questions concernant ma naissance, ma mère esquivait et félicitait plus encore. J'en étais persuadé, il y avait un secret. Sentant ma nounou plus proche de moi et plus vulnérable, je décidais de la harceler jusqu'à découvrir la vérité. Mais plus je lui posais de questions, plus elle se fermait comme une huître. Nos relations se détérioraient. Nous en souffrions mutuellement atrocement. Quelque temps plus tard, et surtout par hasard, je surpris Félicité dans sa chambre investie d'une multitude de bougies, d'images pieuses, d'ossements divers, des cartes de tarot, des bocaux enfermant crapauds, serpents, scorpions, et, parmi d'autres accessoires, des poupées en chiffon, piquées d'épingles. En particulier, l'une d'elles, à la tête affublée de touffes rouges. Au sol étaient disposés des objets hétéroclites formant un large cercle, où Félicité avait pris place, le dos plaqué contre le parquet, les bras en croix. Elle psalmodiait des incantations connues d'elle seule. En Haïti, au dire de ma mère, elle avait été réputée pour ses dons de voyance et de magie. Bérangère, étonnée de voir sa nounou agir de la sorte, se rapprochait inconsciemment du cercle, attirée par une force irrésistible. Elle entendait la voix de Félicité sans comprendre ce qui se passait réellement, comme dans un songe. Celle-ci mugissait, marmonnait des mots au son rock, comme s'il provenait de la bouche d'un homme fortement en colère. « Qu'as-tu fait de notre enfant ? Qu'as-tu fait de ma fille ?» disait la voix aperçue d'ailleurs. Bérangère venait de pénétrer le cercle. Figée en son bord intérieur, face à sa nounou, elle restait pétrifiée, comme hypnotisée. En fait, Félicité n'avait plus rien d'une nounou. C'était une femme d'une quarantaine d'années, à la peau mate, lisse, d'un corps aux formes pleines et vigoureuses, sans pour autant paraître enveloppée. Elle arborait une chevelure flamboyante, foisonnante et frisottante. Sa large bouche, aux lèvres très ourlées, couvrait des dents étincelantes de blancheur. Son visage affichait à l'ordinaire la candeur joviale des gens simples et heureux. De ce fait, il était beau. Mais là, à ce moment précis, face à Bérangère, Elle était une étrangère, au faciès dur, contracté, figée dans sa grimace, les yeux à la pupille noire, profonde, striée d'éclats de feu à embraser tout ce qu'elle fixait de son regard. De son corps demeurant immobile, seule sa poitrine, qu'elle avait généreuse, convulsée à en faire éclater les boutons de sa chemise. Sa voix, son visage, tour à tour, changé de ton et d'apparence, donnant lieu à un violent conciliabule entre deux protagonistes en plein affrontement. Et pourtant, elle était seule à parler. Félicité, sortant de son combat épuisé, peinait à reprendre ses esprits. S'apercevant de la présence de sa protégée, contrariée sur le moment, elle estima cet instant favorable pour lui faire part de ce qui lui rongeait le cœur. C'était l'heure de vérité, la révélation. Amour, ma princesse, viens près de moi, n'aie pas peur. J'ai quelque chose d'important à te dire. Bérangère, rassurée et impatiente, se cala assise entre les genoux de sa nounou, les bras croisés sur une de ses cuisses. Pendue à ses lèvres, plus rien d'autre n'existait. Sans doute, ignores-tu qu'à ta propre naissance, j'ai donné vie à deux enfants, des jumeaux, une fille et un garçon. Aristide, l'homme de la photo qui t'intriguait, en était le père. C'était un prêtre vaudou très puissant et respecté, descendant de Papa Legba, celui qui a en charge pour les esprits de garder les clés du ciel et de l'enfer. Moi-même, je possédais certains pouvoirs très appréciés qui le rendaient d'ailleurs extrêmement jaloux. Qui plus est, il ne supportait pas d'avoir une fille. Seul comptait pour lui Phébus, son fils. Je devais donc la protéger et convier les esprits à l'aider dans cette tâche. Un baptême s'imposait en immersion totale, selon un rite hérité de mes ancêtres vénérés, à qui d'ailleurs je dois tous mes pouvoirs. Un malheur survint. Phébus, pour sortir de l'eau, ne respirait plus. Son père, bien qu'ayant procédé lui-même à l'immersion, m'en rendit responsable, m'accusant de lui avoir jeté un sort. Il se jeta sur moi, failli me tuer. Je devais fuir sa colère, sa haine, sa vengeance. Ma vie était en sursis. Notre père a tous voulu que je rencontre peu de temps après tes parents, qui, voyant mon désarroi et ma peur, me proposèrent de venir avec eux en France à charge d'être pour moi ta nounou. Bérangère, tout ému de ce qu'elle venait d'entendre, se précipita autour du cou de Félicité, la couvrant de baisers frénétiques. Et ta fille, qu'est-elle devenue? Comment s'appelle-t-elle? Félicité, légèrement décontenancée, marqua un moment de silence. Finalement, elle bredouilla sur un ton équivoque. Ophram, mais je ne peux t'en dire plus, c'est trop douloureux pour moi, précisa-t-elle. Éludant tout autre détail, elle poursuivit. Tu portes en toi maintenant un secret, tu en connaîtras bien d'autres. Sois-en digne, car le destin t'a choisi. Je le sais, je vais t'initier et te confier à Papa Arlo qui ouvre et ferme la porte du monde des esprits. Je t'apprendrai à converser avec les morts, à te jouer des fantaisies macabres, percer le mystère des âmes, guérir les maux et les tourments, forcer la destinée des êtres, envoûter leurs cerveaux et les corps, les cerveaux et les corps. Tu pénétreras le monde des ombres, survolera des abîmes de feu. Tu manipuleras à ta dévotion toute matière organique, naturelle, toute espèce animale et humaine. Tous mes pouvoirs, tous mes secrets seront à toi. Ainsi, tu préserveras la tradition. Un jour, tu retourneras sur la terre de nos ancêtres. Tu seras reconnue comme la grande prêtresse que tu mérites d'être. Tu maîtriseras le monde des opportunités. C'est pour cela que je vais te transmettre tout ce que je sais. Sache cependant que ce pouvoir provoque solitude, inimitié, jalousies et maléfices. Entre le bien et le mal, la ligne est difficile à cerner. Il te faudra consulter sans cesse le monde des esprits et des ancêtres garants du grand ordonnancement entre ce qui est et qui n'est plus et qui peut être. Tu côtoieras le monde des zombies, la Madoura, appuieras ta force sur eux, tireras ta puissance de la magie et des rites initiatiques que je vais te transmettre. Enfin, tu me vengeras. Mais il est trop tôt. Le moment venu, je te dirai ce que j'attends de toi et pourquoi. Ce n'est que 30 ans plus tard que Bérangère revint dans l'île d'Haïti, précédée de sa célébrité reconnue sur les 4 continents. Félicité n'est plus, après avoir rempli son rôle de passeur auquel elle s'était amplement impliquée. Des liens très forts les avaient unis. Pourtant, Bérangère soupçonnait Félicité de ne pas lui avoir livré tous ses secrets. Un manque subsistait en elle. Aucune magie, aucun esprit consulté ne pouvait y remédier et traîner au fil des jours, au fil des ans, cette douleur sourde en elle. Et elle traînait au fil des jours, au fil des ans, cette douleur sourde en elle. Félicité n'avait pu se résigner à lui confier l'horreur qu'elle avait endurée le soir même du baptême des jumeaux. Comment aurait-elle pu lui dire « J'ai accouché suite à un viol. Aristide, c'est de lui dont il s'agit. Violent, autoritaire, imbu de sa personne. Voilà tout ce qu'il était, loin de cette image de grand homme qu'il véhiculait autour de lui. Tout un aéropage de femmes jeunes ou moins jeunes le servait, l'idolâtrait, répondait à ses moindres désirs, jusqu'aux plus abjects et pervers. Le tout sous le couvert du vaudou. Pour assouvir sa jalousie envers moi, il m'accusa d'avoir utilisé ma magie provoquant soi-disant la mort de son fils. À la suite de quoi, il organisa le soir même une cérémonie à la croisée des chemins où trône le maître fromager, l'arbre des grands esprits, au puissant tronc où les feuilles pleurent des larmes qui brûlent. De ce lieu voué au sacrifice plus que séculaire, sous l'embrasement des torches redoublait le martèlement des congas et des tam-tams. La danse exaltait les corps. Une cohorte de femmes m'entourèrent, me pressèrent. À un moment, tout se figea, plus un geste, plus un bruit. Aristide se planta devant moi, m'invectiva, vociféra des incantations, invoqua les esprits des enfers, Mahu, le dieu suprême, et tous les dieux inférieurs, tous les laouds de la terre. Je ne pouvais réagir après avoir absorbé la coupe réservée au rite des anciens qui m'avait tendu me droguant à mon insu. À son nom péremptoire, sept femmes au plus proche se jetèrent sur moi, me saisirent violemment. Rapidement, la foule s'écarta, laissant un cercle vide au milieu. Au sol, quatre piquets furent enfoncés. Elles m'y attachèrent, ventre contre terre, bras et jambes écartelés. Chacune de ces femmes se contorsionnait, hurlait, munie d'une verge de saule, me lacérait le dos de plusieurs coups, laissant échapper de mon corps gémissements, cris et violentes souffrances. Ma tête dérivait dans les méandres d'un vertige profond, plongée dans les spires d'un siphon sans fin. Je restais à peine consciente de ce qu'il m'arrivait. À tour de rôle, ces femmes me crachaient dessus, s'engorgeaient la bouche de rhum, le pulvérisaient sur mes plaies à vif. Elles jetèrent dessus un résidu chaud de cannes broyées et macérées, intensifiant la douleur au martyr. Je sentais mes plaies ouvertes s'échauffer, brûler, ma chair fondre. Certaines, relevant leur jupe à la taille, allaient jusqu'à chevaucher mon corps, urinant dessus. Les coups de verge continuaient de s'abattre sur moi. Je sombrais, comateuse, dans les abîmes de l'inconscience. Ce n'est qu'au petit matin que j'ai repris mes esprits. Entre-temps, une tornade s'était abattue sur l'île, interrompant la folie meurtrière de ces hommes et de ces femmes. Eubésio, dieu de la foudre et des orages, avait répondu à mes appels, déversant toute la fureur de ses éléments. J'étais laissé pour morte, abandonné seul aux soins dévastateurs du cyclone. Par chance, une voiture s'arrêta et je fus recueilli par un couple d'autochtones. Lui était docteur, elle professeur des écoles. Hector et Mathilde Bonenfant, Tondadi et Tamanou. Ils m'aidèrent de leurs soins. Plus tard, me réfugiant en France chez eux, j'échappai à la fureur d'Aristide. Non, vraiment, Félicité n'aurait pu lui confier toutes ces atrocités qu'elle avait alors endurées. Et bien que le temps ait atténué les blessures morales et physiques, l'objet de sa haine restait présent. Au fait de ses pouvoirs, elle n'eut de cesse de se venger d'Aristide de son ignominie. Sortilèges, maléfices, envoûtements, aucun ne manqua à ses efforts pour détruire cet homme tout puissant qu'il était. Un jour, alors qu'il s'enfonçait dans le bois du Joubanin, Aristide fut embroché par un sanglier sauvage, lui brisant la jambe et lui déchirant le flanc gauche. Hurlant de douleur, figé au sol, aucun de ses appels ne trouva écho dans le bois sacré réservé au grand maître du vaudou. Nul autre n'osait s'y aventurer. Les heures filaient, tout comme le sang de son corps. Le sang le saisissait, sa vue s'embrouillait, des bruits s'amplifiaient. Du sol, les feuilles crépitaient autour de lui. Il sentit de violents picotements sur sa peau. En quelques heures, grouillait sur lui une multitude de fourmis rouges. De leurs mandibules, elles déchiraient sa chair, pénétraient ses muscles, ses entrailles, jusqu'aux os. Concomitant, un autre son lui parvint. Devant lui, une nuée de frelons jaunes et bruns bourdonnaient, ondulés, dessinant de leur masse compacte les contours d'un corps féminin. À la hauteur des seins se profilaient deux aspics noirs aux yeux rouges, perçants et menaçants. À leur vue, Aristide cessa de hurler. Saisi d'effroi, il reconnut Félicité à ces deux serpents tatoués entourant ses mamelons qu'il avait subjugués lorsqu'il avait abusé d'elle 20 ans plus tôt. C'est alors que, d'un mouvement plongeant, en vagues successives, les frelons fondèrent sur lui. particulièrement sur son sexe, enfonçant leurs dards venimeux dans les moindres parties. De cette douleur fulgurante, Aristide succomba, non sans avoir perçu la voix de Félicité lui vociférant « Sois maudit, cher bâtard, vas en enfer !» À près de 8000 km de là, au même moment, Félicité refermait dans un bocal rempli de formoles un membre viril, tout boursouflé, violacé et noirci. Elle affichait sur son visage un sourire de profond contentement, satisfaite de ne pas avoir eu à confier à Bérangère l'objet de sa vengeance. Entre le 14 et le 15 août a lieu la cérémonie du bois caïman. Le monde de vaudou du Port-au-Prince est enversé en effervescence, la nuit surtout. Bérangère, en tant que grande prêtresse, participe au cérémonial organisé par cette communauté. Une foule immense de corps noirs, tout de blanc vêtus, l'entoure. Les torches flamboient, les feux crépitent, les mains battent, martèlent la pose et le bois des congas. Le son des percussions déchire l'air. Le corps, les corps, tout contorsionnés, se meuvent, déglingués, convulsifs. Les pieds trépignent au sol, les bras moulinent et brassent le vide. Sous la poussière et la chaleur, les tissus collent à la peau qui, à travers, transpire et ruisselle, exhalent de forts effluves du masculin au féminin mêlé. Les voix, tantôt à l'unisson, tantôt discordantes, languissantes, parfois fulgurantes, intensifient la naissance d'un cortex humain aux vibrations démesurées. La marée humaine s'agglutine, tangue de ci de là, mirage d'une oncle en ressac, d'une onde en ressac. La masse, la bête prend corps. Bérangère, grande ordonnatrice, dirige le mouvement tumultueux, communique la transe, transfigure les êtres, hypnotise la foule, la dompte, l'envoûte, la submerge de tout son aura. Emportée par la ferveur du moment, son âme s'évade dans le monde des esprits. Ressurgit l'image de ses 12 ans, le même visage, la même voix, le même mot. Reprenant l'emprise d'elle-même, elle perçoit en face d'elle un homme. Il est immobile, étranger au monde qui l'entoure. Il a des yeux rivés sur elle, il a des visages, ostensiblement, provoque son étonnement. Leurs regards se croisent, se fixent, se pénètrent, s'apprivoisent, se reconnaissent. Pour elle, aucun doute. Cet homme et l'image de l'apparition de ses 12 ans ne font qu'un. Elle s'avance vers lui, il lui ouvre ses bras, elle l'embrasse et lui souffle à l'oreille. Phébus, mon frère, enfin. Sa réponse à lui l'enchante. « Ophrane, ma sœur, je n'ose y croire. » Bérangère pleure, pleure sur Ophrane, pleure sur elle-même. Elle pleure sur Félicité, pleure sa mère.
Voilà, je vous remercie d'être venu me lire votre nouvelle, vos compositions diverses, et puis pour